Enfin, parce que quand on dit hors les murs, ça veut dire marginal, ça veut dire qu'on n'est pas trop enfermé dans l'institution. Donc je le ressens plutôt, ce terme, comme positif. Cela dit, il a aussi des côtés un peu gênants. C'est vrai que lorsque nous avons installé le centre à Cantes à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, à cette époque, on avait une liaison très très forte avec le festival, puisque nous avions un certain nombre de manifestations qui se déroulaient dans les lieux du festival et que nous étions vraiment, disons, le volet musical et musique contemporaine du festival d'Avignon. C'est vrai également qu'il y a une grande tradition à ce sujet, puisque, comme vous savez, Laure Adler parlait il y a quelques minutes de la programmation de France Culture. Il faut dire que France Culture, pendant des années, a animé le théâtre musical à Avignon, et ça a été vraiment un très grand moment à la fois pour France Culture et pour le Festival d'Avignon. Or, quand nous nous sommes installés ici, on était un petit peu dans cette perspective de poursuivre le travail de musique contemporaine qui a été fait dans un festival essentiellement de théâtre. Et je dois dire que Alain Grombec immédiatement nous a proposé un certain nombre de lieux, puisque nous avons même fait une formidable nuit de la création, il y a pas mal d'années de cela, au Palais des Papes. Nous avions toute une nuit le Palais des Papes. Et puis je comprends bien que Bernard Fabre-Dacier a des problèmes de lieux qui sont tous hyper occupés. Et aujourd'hui, je me souviens il y a quelques années, lorsque nous avons eu un concert avec Boulez et l'Intercontemporain, on n'a eu aucun lieu, même si c'était prévu un an et demi à l'avance, pour monter dans le cadre du festival. Et ce concert a eu lieu dans un palais des sports, une salle de sport, dans un petit village du côté de Villeneuve. C'était pas idéal du tout. Bon, mais enfin, c'est la vie. Je sais très bien qu'il se pose des problèmes qu'on ne peut pas résoudre si facilement.
Donc, comme Laure Adler, vous connaissez les problèmes de crise de logement du Festival d'Avignon.
Je partage complètement les préoccupations de Laure, je dois dire. Nous avons eu l'occasion d'en parler ensemble et nous sommes bien d'accord sur ce problème. C'est-à-dire que chacun veut produire et chacun veut produire dans ses propres lieux. Et évidemment, bon, il y a deux entités très fortes ici. Il y en a une hyper forte qui est le festival. Il y en a une autre forte également qui est la Chartreuse avec les rencontres d'été. Et je pense que Laure a ce sentiment et moi aussi, on est quelquefois considérés un peu comme des squatters, je dirais. On nous remercie beaucoup d'être là parce que ce que nous faisons est intéressant. Mais voilà, il faut pas trop déranger les lieux.
Pas de beaux squatters quand même, 9 concerts.
Oui, alors, ce qui est vrai également, c'est que nous avons, depuis l'année dernière, un partenaire très demandeur à Avignon, c'est le musée Calvé. Et le musée Calvé, qui n'est pas un lieu de festival, mais qui est un lieu magnifique, puisqu'il y a une grande salle au premier étage du musée, qui accueille nos concerts, qui sont pour la plupart des concerts de musique de chambre. Et vraiment, déjà l'année dernière, on a pratiquement refusé des auditeurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui viennent, des gens qui viennent souvent pour le théâtre à Avignon et qui se disent, si on entendait un peu de musique contemporaine, pourquoi pas. Donc, on a accueilli beaucoup d'auditeurs l'année dernière. Et puis cette année, eh bien, on a déjà fait un concert qui était un récital de Claudel Fer avant-hier, qui a été très suivi. Donc cette année, nous avons la moitié de nos concerts au musée Calvé et l'autre moitié à la Chartreuse, dans l'église de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Le problème, ce sont des lieux qui sont quand même un peu exigus. Alors on est très content qu'il y ait 150-200 personnes. Je pense que on pourra en avoir beaucoup plus si les lieux le permettaient, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est vrai également que notre principe à nous, c'est d'abord la pédagogie, puisque nous sommes une académie, comme on dit, une académie de musique contemporaine. Et je me console à propos des concerts en me disant que dans la mesure où nous avons de nombreux stagiaires qui viennent de tous les pays du monde pour travailler avec nous, c'est quand même l'axe principal de notre activité et c'est ça qui est vraiment, je crois, le plus important.
Alors on va pas faire le détail de tous les concerts qui sont proposés depuis lundi jusqu'au dimanche 21 juillet, mais il y a quand même deux temps forts, c'est des œuvres de Messiaen pratiquement chaque fois et des œuvres de Betsy Jolas qui est avec vous, avec notamment une création mondiale.
Oui.
Ai-je vu le 12 juillet?
Le 12 juillet, oui. Il se trouve que, enfin je commence par parler de cette création, oui, parce qu'il y a une coïncidence très très touchante pour moi. Il se trouve que cette œuvre, je l'ai écrite sur un texte de Pétrarque qui raconte en latin l'ascension qu'il a faite du Mont Ventoux en 1353, je crois. Et je n'avais aucune idée en choisissant ce texte que cette œuvre serait créée à Villeneuve-les-Avignon, c'est-à-dire vraiment quasiment au pied du Mont Ventoux. Et d'ailleurs, j'ai l'intention d'y monter moi-même lundi prochain, n'ayant jamais fait cette ascension. Il paraît que c'est très dur.
Donc c'est une œuvre de pèlerinage.
Mais oui, mais malgré moi, un peu, c'est une œuvre que j'ai découverte dans la région l'année dernière. Je parle du texte, évidemment. Et je n'ai eu de cesse que de me mettre à y travailler. Mais je voudrais dire, alors ça c'est donc pour ce qui concerne mon œuvre, mais je voudrais tout de même rappeler que nous sommes 4 compositeurs à Kant, ce qui fait partie du projet. Il y a Ivan Fedele, je le rappelle, il y a Brian Fernhow, et il y a François-Bernard Mach et moi-même. Et nous avons chacun la responsabilité d'ateliers instrumentaux, donc d'étudiants dont les œuvres vont être jouées, vont être travaillées et jouées. C'est une chance inouïe. Alors je peux vous dire qu'à Kant, c'est une véritable ruche. Mais ça a toujours été une ruche. Moi, ma dernière expérience, c'était déjà une ruche avec Opéra Autrement. Et je voudrais dire aussi que, en écoutant Laura Adler parler de France Culture, moi, je suis une auditrice fidèle de France Culture, non seulement une auditrice, mais une consommateur. J'ai été souvent diffusée par France Culture et dans les meilleures conditions depuis très très longtemps. Et je dois beaucoup de bonheur à France Culture. Et j'écoute du matin au soir. Alors, je voudrais formuler un vœu, presque une prière, mais gardez-nous France Culture. Vous savez que les pays étrangers nous l'envient. C'est une chaîne merveilleuse. Ouais.
Claude Samuel, est-ce que on peut détailler un tout petit peu, donner les points forts en tout cas de cette programmation, donc Messiaen, Betsy Jolas, mais il y a peut-être des points sur lesquels vous voulez davantage insister.
Oui, je voudrais insister sur 2 points. Le premier, notamment sur l'évolution du Centre à Kant, qui existe depuis 26 ans, moins vieux que France Culture, mais quand même, c'est un petit parcours. Pendant 9 ans, c'était à Aix-en-Provence, et puis depuis 1987, donc c'est à la Chartreuse de Villa-Bès-Avignon. Et bien entendu, tout évolue, la musique contemporaine a évolué, et nos structures de fonctionnement aussi, bien sûr. C'est-à-dire que nous avions davantage au départ d'ateliers d'interprétation, car la musique contemporaine et son interprétation étaient très peu enseignées dans les conservatoires, et on avait des lacunes qu'il fallait remplir. Et donc là, on a fait ce type de travail. Et puis de plus en plus, on s'intéresse aux compositeurs, aux jeunes compositeurs qui écrivent des œuvres, qui ont des partitions, mais rien ne vaut le contrôle sonore à partir de ces partitions. Donc on monte des ateliers de composition, notamment avec depuis plusieurs années avec l'Orchestre d'Avignon, mais également cette année avec l'ensemble Accroche-Notes de Strasbourg, et aussi avec probablement le plus célèbre et le meilleur quatuor à cordes au monde pour le répertoire contemporain, qui est le quatuor Arditi, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de jeunes compositeurs qui ont écrit des œuvres nouvelles, et ces œuvres sont travaillées pendant la durée du stage et joué à la fin. Et c'est très important parce que des compositeurs de talent qui n'ont pas forcément la grande pratique d'écriture peuvent avoir un contrôle permanent et rectifier même pendant le parcours tel ou tel détail d'écriture s'ils voient que tel instrumentiste ne peut pas le jouer parce qu'ils n'ont pas encore une grande expérience dans ce domaine. Alors, je crois que le développement des ateliers de composition, c'est assez récent et c'est un des points forts du Centre à Kant. Et donc, nous avons invité plusieurs compositeurs, comme le disait Betsy Jolas, pour surveiller ce travail. Je dirais en plus que les musiciens de l'orchestre sont dirigés par Silvio Gualda, qui a une très grande expérience dans le domaine, qui a un très bon contact à la fois avec les stagiaires et avec les musiciens de l'orchestre. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que nous sommes de plus en plus un centre international. Tout à l'heure, vous parliez de l'Europe. Alors, nous sommes vraiment européens, mais on est beaucoup plus même, car quand on a créé le Centre à Kant en 1977, on avait à peu près 75% de Français et puis 25% d'Européens, de pays voisins. J'ai regardé les comptes hier par rapport aux stagiaires qui sont là. D'abord, ils sont nombreux, puisqu'on a reçu cette année 145 demandes. On n'a pas pu accepter tout le monde dans certains ateliers, mais on a en finale 106 jeunes musiciens, qui sont tous des professionnels ou futurs professionnels, qui sont là, et qui représentent un nombre de pays considérable. Et la proportion entre les Français et les étrangers s'est inversée. Nous avons un petit quart de Français, et nous avons les trois quarts de différents pays. L'autre jour, j'ai rencontré un musicien qui me dit « Je suis vénézuélien ». Ah, comme c'est intéressant. Nous avons depuis plusieurs années des Chinois qui viennent régulièrement, et d'ailleurs, prochainement, je vais aller à Pékin et à Shanghai au conservatoire pour voir dans le cadre de l'année de la Chine en France et de la France en Chine, c'est ce qu'on peut faire avec eux. Ils sont très demandeurs. De plus en plus, on a des pays de l'Est, naturellement, qui participent. Et cette année, je vais vous donner un chiffre qui m'a beaucoup impressionné lorsque j'ai découvert hier. Donc la plus grosse délégation, c'est normal, sur les 106, ce sont les Français, près d'un quart. Et la seconde délégation, avec 15 représentants, ce sont les Américains. Et je pense que les Américains découvrant le 150, ils n'ont pas l'équivalent aux États-Unis, m'ont-ils dit. Enfin, ils ont d'autres choses à la place. Mais ça me paraît quand même très, très important de travailler en fonction des demandes et des attentes. Ils n'ont probablement pas de service public financement public qui leur permettent de faire ce type de choses. Et les sponsors, ça c'est encore une petite parenthèse, ne s'intéressent pas trop à la musique contemporaine. Donc si nous n'avions pas des aides publiques importantes, notamment bien sûr du ministère de l'Agriculture, le 150 simplement n'existerait pas.
Merci. On redonne donc les concerts depuis lundi jusqu'au 21 juillet. Et donc le motet 4, Ventosum Vocant.
Oui, on l'appelle vent, venteux, ventoux.
Le 12 juillet à Villeneuve-les-Avignon dans l'église, à 19h, oui, 19h.
J'ai encore un tout petit mot à ajouter. En effet, Olivier Messiaen est mort il y a 10 ans. Olivier Messiaen avait été l'invité du Centre à Cantes la première année où le Centre à Cantes était à la Chartreuse, en 87. Les derniers cours qu'il a fait, puisque c'était un grand pédagogue, comme on sait, les derniers cours qu'il a fait étaient à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, donc quelques temps avant sa mort, dans une salle que, entre nous, on a baptisée la salle d'Olivier Messiaen. C'est pas officiel, mais enfin, pour nous, c'est la salle d'Olivier Messiaen. Et cette année, donc, on a décidé de faire un hommage à la fois à travers des cours, des analyses, mais aussi des concerts. Et aujourd'hui même, à 19h au Musée Calvé, il y aura un concert très important. C'est Roger Muraro, qui est devenu un des plus grands interprètes de la musique de Messiaen dans le monde entier aujourd'hui, qui jouera ce grand cycle des 20 regards sur l'enfant Jésus, qui fait entre 2h et 2h30 selon les interprétations. Donc c'est une œuvre tout à fait considérable, un des plus grands cycles de la musique contemporaine du piano, qui sera donné donc à 19h aujourd'hui au Musée Calvé.
Et 19h vendredi pour Betsy Jolas. Merci.